Nous nous retrouvons comme chaque semaine pour un jour, un livre, un auteur. Alors, les sujets sont très variés dans cette émission, mes chers collègues Philippe Denis et Diego Rabal.
Oui, tout
bonjour,
à fait.
Bonjour,
bonjour
à vous.
Bonjour Philippe Subercase. Oui.
Bonjour Philippe,
Diego Rabal.
Bonjour Philippe.
Oui, sujet très divers.
Oui, très divers, parce qu'aujourd'hui, on va en reparler d'un fait divers ou quelque chose qui a défrayé la chronique, au moins l'actu, en 2000, au niveau national.
Voilà, alors ça a duré un peu plus longtemps que ça, et puis ça n'a pas défrayé la chronique, mais ça a quand même soulevé.
On en a parlé.
Voilà, on en a beaucoup parlé.
Sur France 3, je l'avais vu, moi.
Et ça a soulevé énormément d'indignation. C'est la mise à pied d'un inspecteur du travail que nous avons avec nous au téléphone. Il s'agit d'Anthony Smith, qui publie 918 jours, le combat d'un inspecteur du travail aux éditions Arcane 17. Et cette interview va être menée par un collègue à lui, qui n'est pas inspecteur du travail, mais qui est
conseiller en prévention de risque professionnel. Voilà. Et agent à sa montée dans le tribunal comme un inspecteur du travail.
Voilà, avec donc je vais laisser mon ami et acolyte mener la conversation.
On vous regarde comme ça, Philippe, on n'imagine pas tout ce que vous avez comme qualité.
Non, mais on en reparlera tout à l'heure de mes qualités.
Voilà.
De mes qualités, hein.
Voilà. Donc on va accueillir Anthony qui est au téléphone. Bonjour Anthony.
Bonjour Anthony.
Bonjour à vous, bonjour à l'équipe.
Eh bien, la joyeuse équipe. Donc je vous laisse entre les mains de Philippe et peut-être que j'interviendrai de temps à autre si Philippe dit une bêtise.
Alors merci à vous Anthony Smith d'être présent aujourd'hui. Donc on rappelle le titre de votre livre, 918 jours, le combat d'un inspecteur du travail, donc livre plutôt, écrit donc avec Marie-Pierre Vieux, qui est la responsable, la directrice donc des éditions Arcane 17, on le rappelle, la maison d'édition qui est basée à Tarbes,
voilà,
tout à fait. Donc maison d'édition qui est assez engagée, là on est sur un livre effectivement qui est un livre engagé, mais qui parle quand même d'un thème indirectement, la liberté. C'est quand même pas quelque chose qui est notre. Et je vais lire la quatrième de couve de ce livre avant qu'on débute l'interview donc avec Anthony Smith. Alors que débute le premier confinement, en mars 2020, l'inspecteur du travail Anthony Smith demande dans le cadre de l'exercice de ses missions des mesures de protection de la santé pour des salariés d'une association d'aide à domicile de Reims où il exerce. Il va alors être l'objet de multiples pressions pour stopper sa demande de contrôle, puis suspendu de ses fonctions et muté d'office dans la Meuse. Pendant 2 ans et demi, il devra lutter pour l'annulation de cette sanction, bénéficiant d'un large soutien citoyen, syndical, de la gauche politique ainsi que de l'opinion publique. Il obtient gain de cause en octobre 2022 et réintégré dans son poste à Reims le 1er janvier 2023. 918 jours raconte son combat au jour le jour. Le livre est un appel à la reconstruction d'une fonction publique citoyenne au service de l'intérêt général, avançant des propositions pour renforcer la protection des travailleuses et travailleurs. Il est aussi un plaidoyer pour que les luttes sociales conduisent enfin à des victoires populaires. Merci beaucoup Anthony Smith aujourd'hui de nous accompagner. Il faut savoir que, on le disait tout à l'heure, ce combat a été médiatisé par les médias nationaux, aussi bien par les médias de la presse écrite que par les médias de la presse nationale. Moi, je vous avais vu être interviewé de mémoire sur France 3.
Oui.
Lorsqu'il y avait eu, donc c'était passé à France 3 nationale, c'était France 3, donc la région Grand Est qui vous avait interviewé, ils avaient repris ce témoignage et c'est là que j'en avais eu vent. Votre livre, en fait, on va en parler, est en deux parties. Il y a une première partie, effectivement, qui raconte ce qui vous est arrivé, ce que vous avez fait. Vous allez nous en parler. On resitue le contexte, comme je l'ai dit, dans la quatrième de couve. On est au moment de la Covid. Donc en mars 2020, d'accord. Donc arrive le confinement et vous êtes saisi donc par des personnes qui travaillent dans une association d'aide à domicile de Reims. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé.
Oui, voilà, c'est ce contexte-là où se joue cette scène qui aurait pu, vous avez dit, être un roman tellement, mais je vais en dire quelques mots, elle apparaît encore aujourd'hui lorsque je la raconte assez surréaliste. Et bien, tout simplement, moi, inspecteur du travail à Reims, saisi par ses salariés, je fais mon travail, le travail d'un inspecteur, c'est de tenter de veiller à l'application et au respect de la réglementation du travail qui s'est construite au fil du XXe siècle comme une réglementation protectrice de la partie faible du contrat, le salarié. Et donc, bien que l'employeur soit responsable de la santé et de la sécurité des personnels qu'il occupe à l'intérieur de l'entreprise, bien le Code du travail vient corriger une inégalité structurelle qui est le lien de subordination et les inspecteurs du travail sont chargés de veiller au respect des dispositions protectrices. Parmi celles-là, il y a le fait d'avoir une organisation du travail adaptée à l'homme, il y a le fait d'avoir des équipements de protection individuelle, et tout ça était manquant à l'intérieur de cette structure. C'était des aides-soignantes, vous savez, ces futures premières de cordée, ces travailleuses essentielles, parce que c'était évidemment majoritairement et très majoritairement des femmes, qui avaient à aller le matin chez un premier patient, le midi chez un second, le soir chez un troisième, et qui à la fois s'exposaient et étaient exposées. Ben, elles me saisissent parce qu'elles entendent, comme tout le monde à la radio, Édouard Philippe, qui était Premier ministre à l'époque, Emmanuel Macron, dire que l'activité s'arrête jusqu'à nouvel ordre, hein, c'était la formule, et elles se disent, mais comment on va travailler, dans quelles conditions de sécurité ? J'engage, comme tout inspecteur, un dialogue avec l'employeur pour tenter de voir comment organiser les choses, mais eh bien, ça ne va pas se passer normalement, la discussion va être très compliquée, et je vais utiliser un outil juridique dont disposent les inspecteurs du travail, qui est le référé, qui permet en urgence à un inspecteur de saisir un juge afin de lui demander d'ordonner des mesures de protection de la santé de ses salariés. Mais rien ne va se passer comme cela aurait dû être, hein. Un inspecteur indépendant qui saisit un juge indépendant, je vais subir des pressions de ma hiérarchie, du politique, du cabinet de Muriel Pénicaud, du président du conseil départemental.
Alors Muriel Pénicaud, qui était à l'époque, on va le resituer, qui était ministre du Travail.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, ministre du Travail, et ces pressions ne visent qu'une chose, m'empêcher de faire mon travail, parce que à ce moment-là, il était, pour des raisons d'État, les raisons de l'État, hors de question qu'un inspecteur indépendant et un juge indépendant puissent ordonner des mesures qui ne soient pas celles des autorités sanitaires de santé ou qui soient différentes des autorités sanitaires de santé. Souvenez-vous, à ce moment-là, on voyait la porte-parole du gouvernement expliquer qu'il n'y avait pas de nécessité de porter le masque. Le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, qui reviendra seulement 2 ans plus tard sur cette question-là en disant sur les masques, nous sommes trompés, mais en fait, la tonalité de l'État n'était pas celle-là. Moi, je n'ai pas fait de politique dans ce dossier, je faisais simplement mon métier d'inspecteur du travail. J'ai été menacé de sanctions. J'ai tenu bon en déposant ce référé judiciaire devant le tribunal. Je suis rentré chez moi, c'était le 15 avril, je m'en souviens parfaitement. Il était 20h27, j'étais à la maison, confiné, et j'ai reçu un message de ma directrice régionale m'indiquant que j'étais mis à pied à effet immédiat de mes fonctions d'inspecteur du travail. Et là, tout s'arrête littéralement, c'est-à-dire que je ne vais plus communiquer pendant 5 mois avec mon administration, le ministère du Travail, que par le biais d'huissiers qui sont envoyés à mon domicile, de courriers recommandés, de mise en cause publique, hein, dans un communiqué de presse envoyé à toutes les rédactions de France par Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, expliquant que j'étais le plus mauvais agent inspecteur du travail de France, etc. etc. Cette pression qui va s'abattre va littéralement me débrancher. On me supprime mon téléphone, on me supprime mon ordinateur et je suis coupé de mon travail au sens premier, mais pas coupé de la solidarité, du soutien politique, citoyen, syndical qui va se mettre en place et médiatique aussi. On est à un moment où on est confiné puis ensuite en sortie du premier confinement et on va utiliser, je pense, de façon très novatrice, les réseaux sociaux que je découvre alors pour ma part à l'époque et qui vont permettre de mener aussi à distance cette lutte, ce combat, une pétition par exemple sur change.org qui va réunir 160 000 citoyens toute la gauche politique qui va s'adresser au Premier ministre, un arc intersyndical dans la Marne où j'exerce à ce moment-là et nationalement qui va être incroyablement fort, y compris la Confédération européenne des syndicats, par exemple, qui va me soutenir dans cette bataille. La Commission nationale consultative des droits de l'homme va également se saisir de ce dossier en France pour dénoncer le cours suivi par le ministère du Travail concernant les inspecteurs du travail, parce que je le redis, je suis un parmi 1700 inspecteurs du travail, malheureusement trop peu nombreux dans ce pays pour réaliser leur mission tellement nécessaire aux salariés, mais je suis celui qui a subi la répression de l'État pour faire un exemple, en fait, hein, faire un exemple, alors même que je n'avais fait que mon travail, c'est-à-dire tenter de veiller à la santé et la sécurité des conditions de travail.
Et c'est un point important que vous soulevez, parce que je voudrais juste rappeler, hein, pour qu'on fixe le cadre, hein, dans lequel effectivement un inspecteur du travail fonctionne. Hein.
Oui.
Il y a la loi, hein, du 31 décembre 1991, hein, sur les principes généraux de prévention, qui est une loi, oui, donc, qui est une déclinaison donc, d'une directive européenne donc, oui, de 1989, avec 9 principes généraux de prévention, avec des principes que vous avez rappelés, qui est le périmètre d'intervention juridique en termes de santé et sécurité au travail, dans lequel effectivement doivent intervenir les inspecteurs du travail, les médecins du travail, les conseillers en prévention des risques professionnels, les infirmiers, donc aujourd'hui infirmières en santé au travail. Et d'un seul coup, ce cadre-là, effectivement, n'est plus respecté. Et je vois des goûts à rabat à côté de moi qui a une question à vous poser, Anthony Smith.
Oui. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que vous pensez que c'est l'appui politique à l'association qui a mené à votre mise à pied, ou est-ce que vous pensez que ça dépasse cela et que l'association en elle-même ne bénéficie pas d'un appui spécifique?
Oui, dans le livre, je cite des mails qui ont été publiés par la presse, hein, qui sont des échanges entre l'association, le ministère du Travail, le préfet, le conseil départemental. Non, il y a réellement eu des pressions politiques dans ce dossier qui ont été documentées par vos collègues de la presse de télé, notamment vous citiez tout à l'heure France 3, hein, qui a enquêté et pour lequel le président du conseil départemental de l'époque a reconnu avoir saisi le cabinet de la ministre Pénicaud. Même Elisabeth Borne, en septembre 2020, lorsqu'elle va revenir partiellement sur la sanction dont je fais l'objet, au vu de la mobilisation dans les services qui continuent d'être extrêmement, extrêmement fortes, eh bien même Elisabeth Borne reconnaît que ce dossier n'était ni fait ni à faire, tout en maintenant les sanctions disciplinaires. Donc c'est vraiment pour des motifs politiques, des motifs de raison d'État, hein, le fait qu'un inspecteur exige des protections alors que les travailleuses de l'aide à domicile, qui étaient aussi face à un public qui subissait le premier Covid de façon extrêmement forte, ne bénéficiaient pas du même niveau de protection que des travailleurs exposés à l'hôpital notamment. Donc ça, il y avait cette situation, hein, que je décris et qui est vraiment un choix politique. J'ai d'ailleurs lancé l'alerte à ce moment-là auprès de l'autorité centrale de l'inspection du travail, qui est le directeur général du travail en France, pour lui signaler les pressions que je subissais et les ultimatums, puisqu'on m'intimait l'ordre d'arrêter mes contrôles. Alors, vous disiez tout à l'heure que le cadre légal des principes de prévention, il y a aussi un texte international qui est fondamental pour les inspecteurs du travail, qui est la Convention 81 de 1947 de l'Organisation internationale du travail, qui dit que les inspecteurs du travail sont indépendants de toutes les influences extérieures indues et qu'ils décident librement des suites qu'ils donnent à leur contrôle. Et en fait, c'est cette garantie d'indépendance qui a été violée durant cette période, puisqu'on a tenté de m'intimer l'ordre de ne pas faire mon travail. Et il a fallu ces 918 jours pour qu'un juge indépendant, que j'avais saisi évidemment pour contester la sanction disciplinaire, parce que j'ai été suspendu 5 mois puis muté en Meuse pendant 2 ans, qu'un juge indépendant, le 20 octobre 2022, disent que les inspecteurs du travail sont soumis aux obligations hiérarchiques, sauf si, comme c'était le cas dans cette affaire, l'administration viole la loi, c'est-à-dire ne respecte pas les prérogatives des inspecteurs. Et c'est ce combat qui m'a réhabilité en quelque sorte, pas à titre posthume, à titre d'aujourd'hui, et qui m'a permis de retrouver mon poste d'inspecteur du travail en étant lavé de toute l'opprobre que j'avais subi durant Covid, et qui a aussi redonné beaucoup de force aux inspecteurs du travail, parce que vous savez, en attaquant un inspecteur du travail de la sorte, alors que nous sommes si peu nombreux nationalement, la ministre Pénicaud, qui était plus la ministre du patronat que la ministre des salariés, avait vraiment fait du mal à l'ensemble du corps et derrière, à l'ensemble du code du travail et à l'ensemble du salariat. Parce que c'est bien ça qui se joue dans cette affaire-là. Plus les protections collectives sont diminuées, affaiblies, abaissées, plus le code est attaqué, réformé, par exemple avec les ordonnances d'Emmanuel Macron de 2017 qui ont totalement déstructuré la protection des salariés et le code du travail, et bien plus ce sont les salariés qui subissent. Hein, quand on attaque un inspecteur du travail, et c'est aussi pour ça que cette mobilisation a été aussi forte socialement, des centaines de comités, de sections syndicales d'entreprises qui ont témoigné de leur solidarité. Moi je fais aujourd'hui un petit tour de France pour présenter le livre. Et j'étais à Lille il y a 3 jours, j'ai rencontré des syndicalistes ouvriers, des unions locales du Nord, de Béthune, d'Arras, de différents endroits, qui tous disent combien, quand ils ont appris qu'un inspecteur du travail avait été attaqué de la sorte, se sont dit « c'est la dernière digue, si on s'attaque même à ceux qui sont censés protéger le salarié dans l'entreprise, alors on va vers quelque chose de très dangereux. » C'est pour ça que cette bataille, elle a pu être belle, menée collectivement, grand angle, dans une unité assez forte, et qu'elle m'a dépassé le premier jour où elle s'est mise en branle, et tant mieux qu'elle m'ait dépassé. Moi, j'ai regardé ça avec une grande... je veux dire, un grand recul et en même temps une grande fierté, et ça m'a permis de tenir ces 918 jours que d'avoir ce soutien populaire.
Alors, vous savez, moi, je suis un syndicaliste. C'est le titre justement de votre livre, oui. on le rappelle, hein, pour celles et ceux qui prendraient donc l'émission en cours de route, Anthony Smith, 918 jours, le combat d'un inspecteur du travail, donc qui est un livre, hein, je le répète, hein, qui a été écrit avec Marie-Pierre Vieux, qui est la directrice donc, des éditions Arcane 17, maison d'édition, donc dont le siège social se situe à Tarbes. Alors, je voulais juste lire un petit passage, c'est votre avant-propos. C'est en page 11 de votre livre, c'est-à-dire où vous expliquez à un moment donné ce qui se déroule dans le temps sur ces 918 jours. Je le lis donc avant-propos en page 11 de votre livre. Du 15 avril 2020 au 20 octobre 2022, j'ai, durant 918 jours, vécu une vie à part. Moi, l'inspecteur du travail, je me suis retrouvé débarqué de mon poste de travail, exfiltré de mon département, privé durant un temps de mes droits au travail. Plus de 3 ans après ma suspension, quand j'essaie de me rappeler l'enchaînement des événements, je suis toujours saisi du même effroi. Cette suspension et la sanction disciplinaire qui a suivi, je ne les ai pas choisies. Elles me sont tombées dessus. Quant aux faits qui m'ont été reprochés, comment aurais-je pu agir autrement? C'était tout simplement impossible. J'ai été jugé par mon administration coupable d'avoir bien effectué mon travail, coupable d'avoir rappelé à un employeur au plus fort de la pandémie de Covid ses obligations, coupable d'avoir saisi un juge indépendant pour lui demander d'ordonner des mesures afin de protéger la santé et la sécurité de travailleuses d'une association d'aide à domicile allant au chevet de personnes vulnérables en risquant de les contaminer comme d'être contaminées. J'ai dû combattre sans relâche pour être entendu, compris, puis restauré dans ma dignité. J'ai pu le faire grâce à une mobilisation sociale, syndicale, citoyenne, politique d'ampleur, alors même que le pays était confiné. Alors, on va en parler un peu de ça. Donc, vous avez un syndicat qui vous soutient énormément, c'est la Confédération Générale des Travailleurs, la CGT.
Oui, c'est mon syndicat. C'est la CGT qui a été magnifique du jour où j'ai été suspendu jusqu'au jour où j'ai été où le tribunal administratif de Nancy a annulé la sanction administrative. J'ai été soutenu de bout en bout par notre CGT, quoi. Et comme syndicaliste qui depuis des décennies défend mes collègues, les salariés dans l'entreprise, le jour où j'ai eu besoin de mes camarades parce que j'étais attaqué, ils ont tous répondu présent. Et au-delà de la CGT, c'est l'ensemble de l'arc intersyndical de transformation sociale qui a été présent dans cette bataille à tous les niveaux, hein, local, fédéral, même confédéral et international, comme je vous le disais tout à l'heure.
Comment vous expliquez, Anthony Spies, qu'on ait pu en arriver là? Est-ce que c'est la période de la Covid qui a provoqué ça? Est-ce que vous pensez que cet événement qui vous est survenu aurait pu survenir hors période Covid? Comment vous expliquez ça? Comment on peut en arriver à ce qu'à un moment donné, un inspecteur du travail qui est protégé, vous le disiez tout à l'heure, par ce texte de l'Organisation internationale du travail, notamment par rapport à son indépendance dans la décision technique? Comment
les astres étaient bizarrement configurés à ce moment-là, mais d'une façon générale, la tendance du droit du travail qui a été un droit et qui s'est construit, je vous le disais au début du propos, pour corriger les inégalités dans la relation de travail, se sont inversées dans le tournant des années 2000-2010. Et aujourd'hui, le code du travail est considéré par le capital, d'une certaine façon, pour le dire comme ça, comme un frein beaucoup trop important au développement de l'emploi. On l'a vu à travers tout ce qu'on a appelé le phénomène d'ubérisation de la société, qui sort des millions de travailleurs de l'application du code du travail. Vous savez, ce sont ces livreurs à vélo, d'Uber, de Deliveroo, de toutes d'autres structures, ou par le développement de moi ce que j'appelle le soft law, c'est-à-dire un droit mou qui présuppose l'adhésion spontanée du patronat à la norme de droit et qui fonctionne par le biais de recommandations non contraignantes et qui s'est beaucoup développé pendant Covid. Par exemple, souvenez-vous, c'était le protocole national ou les protocoles locaux en entreprise. Ça, c'est corrélé à autre chose, au fait que le patronat, notamment sous l'impulsion de Muriel Pénicaud lorsqu'elle était ministre du Travail, considère que les inspecteurs du travail sont un anachronisme. Comment imaginer qu'au XXIe siècle, des gens disposant de prérogatives garanties par le droit international aient toujours et encore droit d'entrée de jour comme de nuit dans tout établissement assujetti à leur contrôle? C'est un coin dans la prérogative patronale qui n'est plus supporté, et cette conjugaison de ces facteurs, la remise en cause du code du travail, s'est accompagnée de la remise en cause de ceux qui étaient censés le mettre en œuvre. Et faire un exemple était censé mettre au pas une inspection du travail qui est considérée, vous savez, c'est un vieux corps, l'inspection du travail. Elle a été créée en 1892 dans l'une des premières lois sociales de notre pays, avant même que le ministère du travail ne soit créé, lui, en 1906. Donc c'est dire que l'inspection du travail, elle est liée à l'histoire sociale du pays. Mitterrand, en 93, lors du centenaire de l'inspection, avait dit que les inspecteurs exerçaient même une magistrature sociale dans le pays. Donc c'est dire que vraiment, ces inspecteurs, ce sont des poils à gratter dans le cadre d'un système qui est de plus en plus libéralisé, et que les mettre au pas est un impératif suivi depuis une quinzaine d'années dans le ministère du Travail. Alors, je ne vais pas rentrer sur la cuisine interne du ministère du Travail, mais où vraiment il y a un corsetage, une tentative de reprise en main des inspecteurs du travail qui est extrêmement forte, qui se fait de deux façons, par la mise en place d'un code de déontologie, par exemple, extrêmement sévère pour les inspecteurs du travail, et puis par une suppression massive des inspecteurs. Nous étions 2200 il y a 10 ans, nous ne sommes plus que 1700. On a un inspecteur du travail pour plus de 10 000 salariés sur un secteur. Juste pour garder deux chiffres en tête, il y a plus de 2 millions d'entreprises dans le pays qui devraient être contrôlées par l'inspection, et plus de 20 millions de salariés qui sont sous compétence des inspecteurs du travail. Et nous ne sommes que 1700. Donc tout cela me fait dire que oui, il y avait une volonté de mise au pas, que le moment s'est trouvé de pouvoir le faire, et que j'ai été un parmi 1700 à subir cela, mais que au final, cette opération s'est retrouvée, je dirais, c'est un peu l'opération des pieds nickelés, parce que ça a produit l'inverse de ce qui a été souhaité. Moi, je pense que l'inspection, au contraire, a montré sa capacité de résistance collective. 1300 collègues, par exemple, se sont solidarisés de ce qui m'arrivait en signant une tribune dans Mediapart. Toute la gauche politique et sociale a signé, de Lutte ouvrière au Parti socialiste, en passant par LFI et le Parti communiste, enfin, je veux dire, l'ensemble de la gauche s'est solidarisé, a intégré la question aussi, a redécouvert que les inspecteurs du travail dans ce pays étaient en train d'être laminés, et ça a créé des ponts, des solidarités nouvelles qui permettent aujourd'hui de poser un peu plus la question des inspecteurs, des inspectrices du travail, et donc ça a produit l'effet inverse à celui souhaité. Et puis ce jugement qui est venu le 20 octobre redire la garantie d'indépendance, le droit de désobéir à un ordre illégal est très important pour à la fois les inspecteurs, mais aussi pour les fonctionnaires de ce pays, qui trop souvent sont soumis au principe d'obéissance hiérarchique, sans qu'ils ne gardent en tête qu'on ne doit obéir qu'à des ordres qui sont fondés en droit et qui sont légaux, et que la loyauté qui est en permanence opposée aux fonctionnaires de ce pays est totalement lié à l'obéissance hiérarchique. Ce n'est pas être loyal, ce n'est pas obéir à tout le temps, c'est servir l'intérêt général. Servir l'intérêt général, c'est servir les citoyens de ce pays. C'est à eux que nous devons rendre compte. Et beaucoup trop aujourd'hui, on le voit avec les affaires McKinsey, etc., l'État social est accaparé par le privé, par des valeurs qui sont loin de ceux du Conseil national de la résistance, de ceux qui ont fondé la fonction publique française. J'essaye d'y réfléchir un petit peu aussi dans cet ouvrage, parce que je voulais aussi à un moment donné dépasser ce qui m'était arrivé, et Marie-Pierre m'y a beaucoup aidé, Marie-Pierre Vieux, qui est co-autrice et l'éditrice d'Arcane 17, et que je remercierai toujours, parce qu'elle m'a aidé à aller plus loin et à dépasser cette histoire pour tenter d'en tirer aussi des enseignements sur le champ syndical, politique, du fonctionnariat aujourd'hui dans le pays. Je parle des fonctionnaires citoyen, et donc voilà, ça aussi c'était extrêmement important pour moi de ne pas, moi j'essaye de toujours avancer, et donc de ne pas rester sur cette victoire et sur ces 918 jours, mais d'essayer de le rendre un tout petit peu utile à ma place, sans prétention aucune, pour que on puisse ensemble, dans le mouvement social, le mouvement syndical, échanger, débattre, discuter. C'est ce que je fais lorsque je me déplace dans les différentes villes ou régions.
En tous les cas, merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, Anthony.